Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Soyez les bienvenus, bon Noël à vous tous, chers amis, si vous nous rejoignez en ce 25 décembre. On fait le tour de la question après la musique, le tour de la peinture avec une très belle expo au musée d'Orsay que vous avez peut-être vu d'ailleurs. Picasso, bleu et rose. Picasso, l'un des peintres préférés des Français, premier artiste à avoir été exposé au Louvre de son vivant en 1971. Et bien 35 ans après sa mort, sa famille gère avec intelligence ce patrimoine immense et une signature mondialement reconnue. Exposition unique en ce moment qu'on redécouvre ensemble ce matin. C'est parti jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Dans un monde sans bornes, la nuit ne vienne plus jamais. La nuit ne vienne plus jamais.
Picasso, Colombe ou Laurier, l'hommage de Jean Ferrat au grand peintre, votre grand-père. Bonjour Olivier Picasso.
Bonjour.
Merci de passer cette heure avec nous alors que l'actualité est fébrile autour de cette exposition aujourd'hui. Vous avez sous les yeux les journaux de ce mardi. Chère Julie, il y a du Picasso bleu
partout,
et rouge partout.
À la une du Figaro en tout petit et puis le Figaro et vous, c'est pleine page.
Ouais, le premier âge d'or de Picasso.
Voilà, et la double page du Parisien ce matin.
Et voilà, et une heure avec nous pour les passionnés, les férus d'art, les dessins de ces colombes, on les entendait chanter par Jean Ferrat, sont peut-être les plus connus du grand public. Olivier Picasso, message de paix, très délicat.
Oui, bien sûr, ça a une valeur symbolique. Mm. Mon grand-père a été un humaniste. Il s'est engagé politiquement, personnellement, au niveau du quotidien, mais aussi sur un plan international. Et je pense que les gens ont retenu notamment cette colombe parce qu'elle est un espoir. Mm-hmm. C'était un espoir pour lui. De paix, il a traversé un siècle entier avec deux guerres mondiales, une guerre civile en Espagne, beaucoup d'événements qui ont modifié même la société. Il en était un symbole de cette liberté. Et la colombe reste encore aujourd'hui un espoir.
50 000 œuvres pour Picasso. Chaque exposition est une découverte ou une redécouverte. Dites-nous la singularité de celle au musée d'Orsay qui commence aujourd'hui, Olivier.
Je pense que pour tout le monde, Pablo Picasso est une énigme et chaque exposition est une façon d'essayer de comprendre. Mais celle qui s'ouvre aujourd'hui au musée d'Orsay est exceptionnelle. C'est la première fois qu'on réunit autant d'œuvres des deux périodes fondatrices. En rappelant qu'il a 19 ans quand il arrive à Paris en 1900. Et donc l'exposition s'ouvre sur les œuvres d'un jeune homme de 19 ans. Elles sont flamboyantes. Et l'exposition se termine sur des œuvres à nouveau qui annoncent le cubisme. Il a 25 ans. Il lui reste encore près de 70 ans à vivre.
C'est les Demoiselles d'Avignon, non, le tableau qui fait la transition?
Ce sera la transition. Ce sera l'aventure de l'art moderne. Mais les Demoiselles d'Avignon ne voyagent plus. Elles restent à New York, au MoMA. Oui. Mais il y a un autoportrait à la fin qui est tout à fait dans le style du primitivisme qui fait naître le cubisme.
Voilà comment ces périodes exposées au musée d'Orsay nous racontent Picasso. Picasso bleu et rose, ce sont finalement de courtes années, mais 6 années charnières dans la vie, dans la carrière de votre grand-père.
Oui, et dans sa vie personnelle, parce que l'homme et l'artiste ne font qu'un. En fin de compte, Pablo Picasso n'est pas un peintre de l'abstraction, il a besoin de modèles, ce sont souvent des femmes, mais aussi des paysages ou des objets. Mais c'est aussi la biographie de son quotidien. Les œuvres reflètent ce qu'il ressent. Quand il arrive à Paris, il rêve, il s'éblouit devant la vie parisienne. Ce sont les œuvres du début, celles qui sont inspirées à la fois par Toulouse-Lautrec ou par Gauguin. Et c'est un autoportrait qui ouvre l'exposition, qui est flamboyant. Il a 20 ans, il est en train de se montrer dans une sorte de sublimation de sa vie. Et quelques mois plus tard, c'est la période bleue. Elle est fondée par le suicide d'un de ses amis en février, et quelques mois plus tard, c'est le bleu qui envahit sa vie, c'est la nostalgie, c'est le deuil, et c'est aussi la pauvreté à Paris.
Car le bleu Pablo... comme le blues alors. Hein,
le bleu comme le blues, blues, absolument.
C'est ça,
ouais. Oh, oui.
C'est entaché, toutes les toiles sont entachées de ce bleu d'ailleurs.
Exactement, et il mettra du temps à se relever de cette période qui est difficile, mais il est très courageux. Lui, il a une mission, il a conscience de son talent, il faut absolument qu'il l'exerce, et l'exposition Bleu et Rose montre comment il le fait avec un côté unique. C'est le génie qui naît.
Oui, 1901-1904, cette période bleue de tristesse et de déshérence. Et avant d'aller dans le détail avec vous, posons un petit peu les bases de cette exposition, Olivier Picasso. La période rose qui va suivre a un autre goût, le goût de la vie, le goût de la reconquête, de la renaissance.
Et le goût de l'amour aussi. une rencontre, des rencontres, des nouvelles sources d'inspiration. Également le fait qu'il aille visiter le cirque, le monde du cirque. Il découvre les acrobates, les clowns, les couleurs, les arlequins.
Sa rencontre à Paris avec le monde du cirque, les
Absolument, arts du cirque, au cirque Medrano, qui va être pour lui, eh bien, en quelque sorte, l'illustration de son nouvel état d'esprit. C'est ainsi que... on peut définir les périodes, même si lui ne les définissait pas comme telles. C'était un seul travail et une évolution.
Oui, Elodie nous demande sur Facebook, bleu et rose, cela signifie-t-il que Picasso était parfois un peu monomaniaque? Disons qu'il allait au bout des choses.
Disons qu'à l'époque, il explore pour la première fois l'utilisation en effet monolithique d'une seule couleur. Et il arrive à la transfigurer avec des variantes, avec l'utilisation de toutes les palettes du bleu. Et ce sera la même chose avec le rose. Ensuite, il nous montrera qu'il a quand même d'autres couleurs sur sa palette.
Bien sûr, bleu et rose, en tout cas, le premier âge d'or de Picasso fait la une des grands journaux aujourd'hui. Et nous passons une heure avec son petit-fils brillant, cette famille, hein, Olivier Wienmayer Picasso.
Avec modestie.
Jusqu'à 11h. Si vous êtes féru de peinture, si vous êtes passionné de Picasso, n'hésitez pas à témoigner parce que l'échange peut s'amorcer avec notre invité, ça sera joli, au 39-21 et sur les réseaux sociaux aussi, Julie.
Avec Wendy Bouchard et avec Olivier Wiedmaier Picasso, nous poussons les portes du musée d'Orsay, je vais y arriver. Le musée qui accueille aujourd'hui une grande expo Picasso, c'est à partir d'aujourd'hui donc consacrée à ces périodes bleues et roses.
Exposition exceptionnelle, exposition phare de la rentrée. On est ravis d'en parler avec vous sur Europe 1. Si vous aimez la peinture, si vous êtes sensible à l'art de Picasso, le grand peintre qui avait entre 19 et 25 ans lorsqu'il a inauguré ces périodes à la fois bleues et roses. On va plonger avec vous dans ces univers. Œuvre exceptionnelle qu'on voit assez rarement finalement, Olivier Picasso.
Eh bien, écoutez, je pensais qu'il y avait déjà eu une rétrospective de ce type. Eh bien, pas du tout. C'est donc la première fois
en France,
on arrive à réunir autant de chefs-d'œuvre qui viennent de prêteurs du monde entier, aussi bien des musées, mais aussi des collectionneurs privés. À l'époque, mon grand-père, qui est donc été très pauvre, devait vendre pour pouvoir vivre. Et donc, toutes ces œuvres sont parties très rapidement chez les collectionneurs, notamment allemands, russes, et puis chez des grands marchands. Et donc, les œuvres aujourd'hui se retrouvent peut-être même lorsqu'elles étaient ensemble dans son atelier. Donc, il y a un côté magique dans tout ça.
Joli. Il y a 50 000 œuvres à peu près. Combien de tableaux pour Picasso?
On estime à 8 000 tableaux sa production. Il en avait gardé plus de 2 000 parce qu'il voulait créer lui-même, finalement, le musée idéal. Et le musée idéal, c'est le musée national Picasso à Paris, qui est le résultat des droits de succession qui ont été payés avec des œuvres d'art.
Avec une exposition en ce moment sur les chefs-d'œuvre Picasso, justement. Alors, vous avez prêté, j'imagine que le musée Picasso a prêté un peu au musée d'Orsay pour faire. Pour nourrir.
Exactement.
Encore.
Et le musée Picasso a également emprunté des œuvres pour pouvoir compléter son propos parce que l'exposition chef-d'œuvre, c'est vraiment une réouverture exceptionnelle.
Oui, vous parliez de monotype de couleurs, ce bleu puis ce rose, avec l'éloge de la couleur qu'il savait si bien manier, votre grand-père. Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge, aurait-il dit. C'est génial et c'est enfantin.
Il était féru de boutade. Vous savez, le fameux les autres parlent, je travaille. C'était quelqu'un de silencieux qui aura toujours évité les micros dans sa vie et surtout les caméras. Et c'est quelqu'un qui aura fait de son œuvre son expression. Voilà. Et elle est quand même gigantesque.
La légende dit que son premier mot prononcé aurait été « pise » pour « lapis ».
Le crayon, oui. Absolument.
Vous y croyez à cette légende?
Écoutez, ça ne me paraît pas impossible. Oui. Je pense qu'il a eu un attrait très rapide pour la création.
Oui.
Et il est très probable qu'il ait compris ce mot bien avant de comprendre celui de papa ou de maman.
Ouais. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie aux différents ouvrages et notamment à ce Picasso portrait intime que vous avez publié chez Albin Michel, parce que lorsque l'on voit sa première œuvre, sa première peinture, il faut que vous nous la décriviez, Olivier Picasso, on est subjugué quand même.
Alors la première œuvre, il a 7 ans, le premier tableau qu'il fait sur le couvercle d'une boîte de gâteau, et c'est un petit picador jaune. Ça reflète à la fois sa technique, son don inné, mais également ses origines espagnoles. Et puis alors après, il suffira de quelques années pour qu'il gagne les premiers prix avec des œuvres qu'on trouve aujourd'hui au musée Picasso de Barcelone, notamment la première communion ou Science et Charité, qui sont exceptionnelles à la fois de maîtrise artistique, classique, mais également au niveau de l'idée de réunir la religion et la science sur un même tableau. C'était osé et il a reçu le premier prix.
À quel âge là?
Il avait 14 ans.
Oh là. Et là, un de ses premiers tableaux, le petit picador jaune, il est quelque part ? Il est resté dans les collections ?
Il a été racheté par un membre de la famille.
Ah, ça c'est bien, voilà. C'est resté dans la famille. C'était important parce qu'il ne voulait pas s'en séparer en plus lui-même.
Hein. Il avait beaucoup, beaucoup de difficultés à se séparer de ses œuvres. Et à sa mort, lorsqu'on a ouvert toutes ses maisons, on a retrouvé des œuvres de toutes les époques qui montraient à la fois son attachement à son talent et son attachement aux êtres qu'il avait représentés. Notamment ma grand-mère Marie-Thérèse et tous ces portraits qu'on voit aujourd'hui. Et il y avait la grande exposition Picasso 1932 au printemps dernier. C'était exceptionnel.
Vous parlez de la famille Olivier Picasso. Sa précocité lui vient-elle d'un terreau favorable ? Est-ce qu'on est très dans l'art, dans la peinture à l'époque chez ses parents, ses grands-parents ?
Je pense qu'il y a un atavisme. Son père, mon arrière-grand-père, était professeur de dessin.
Ah, oui.
Et très tôt, il a saisi le talent de son fils. Il pensait en faire un autre professeur de dessin. Mmh. Et très rapidement, il s'est rendu compte que l'enfant dépassait le père. Et la famille a tout fait pour l'accompagner, pour payer ses études à Barcelone et à Madrid,
oui,
dans les académies
Beaux-Arts.
De Beaux-Arts.
Hein,
exactement. Ouais. Et son père, je pense, a rendu les armes. Mmh. Il s'est dit, cet enfant ne sera pas professeur, il sera peut-être un jour au musée du Prado à Madrid. Et en fin de compte, Pablo est partout, dans le monde entier.
Mais il continue de faire des allers-retours hein, entre Barcelone et Paris.
La famille est très importante. Lui-même, dans sa propre famille, il a eu 4 enfants, a toujours été attaché à ses enfants, au point d'étudier même comment il dessinait. Et vous vous souvenez sans doute qu'il a déclaré un jour, il avait 70 ans, il a dit, il m'a fallu 60 ans pour apprendre à dessiner comme eux.
Ouais,
parce qu'il avait tellement de talent qu'il dessinait comme les grands et qu'il voulait retrouver la spontanéité de l'enfance.
Oui, ce qu'il savait faire quand il était enfant. Il dessinait comme un enfant.
Et puis presque comme un adulte.
Comme un adulte, il a fallu apprendre le contraire, quoi, cette naïveté. En tout cas, il était regardé comme un talent dans la famille, pas exclu, accompagné, ce que vous disiez.
Accompagné par sa mère, par son père, bien sûr, qu'il regardait avec beaucoup d'effarement, mais également son oncle qui avait été son sponsor, en quelque sorte, pour payer ses études. Et puis ensuite, sa propre famille, chacun a dû apprendre à vivre avec Picasso.
De Malaga à Paris, le destin de Pablo Picasso se transforme. Il a 19 ans jusqu'à 25 ans. Ces périodes d'âge d'or, bleu et rose sont exposées à partir d'aujourd'hui au musée d'Orsay. Nous sommes avec son petit-fils, Olivier Wiedemeyer Picasso, pour parler de ce souffle de liberté. Tout de suite.
Europe 1.
À l'occasion de l'exposition au musée d'Orsay qui ouvre aujourd'hui, nous parlons de Picasso. Période bleue et période rose, c'est le thème de cette exposition. Et nous sommes avec son petit-fils Olivier.
Absolument, et nous suivons l'arrivée de Pablo Picasso à Paris au moment où commencent ces différentes périodes. Période bleue de tristesse, de déshérence, période rose qui a le goût de l'amour, vous nous le disiez. Alors quand il arrive à Paris, Olivier Picasso, votre grand-père, il arrive forcément à Montmartre.
Il arrive à Montmartre, mais juste avant, il arrive à la gare d'Orsay.
Ah bah oui, voilà, chaud. C'est beau comme ça, bouclé.
Il arrive par un train depuis l'Espagne, un train en wagon de 3e classe, en bois. Ça met 2 jours pour arriver à Paris. Il arrive au musée d'Orsay, je trouve que le clin d'œil est assez amusant aujourd'hui.
Ensuite, musée évidemment, d'Orsay ayant pris la place de la gare d'Orsay.
Merci,
exactement. Et bien sûr, il rejoint Montmartre, c'est là où se passe finalement le foisonnement des artistes qui ont débarqué à Paris pour voir d'un côté l'exposition universelle et peut-être la Tour Eiffel, et puis de l'autre côté aussi pour échanger. Alors Pablo parle espagnol, donc il est plus dans la communauté espagnole qui va lui servir de tremplin. Les premiers marchands qui sont les intermédiaires pour le montrer, et très vite il va rencontrer Ambroise Vollard, le grand marchand, celui qui s'occupe de Matisse et de bien d'autres artistes, et qui va saisir qu'il a devant lui un artiste prometteur.
Mais ce qui est formidable, c'est que ça se fait vraiment à l'époque au culot. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec quasiment pas d'argent en poche, et puis il faut bien être logé, il faut bien avancer, se nourrir, donc on peint et on échange les toiles.
Et lorsque plus tard Pablo va s'installer au bateau Lavoir, cet ensemble d'ateliers d'artistes qui n'est pas chauffé l'hiver et qui est en métal, donc qui est une véritable fournaise l'été, eh bien Pablo va y rester presque 7 ans.
Oui.
Donc ça montre la détermination, il ne va jamais, jamais, jamais lâcher.
C'est là qu'il rencontre sa première compagne, c'est là qu'il rencontre Apollinaire, Modiglianiste à ce moment-là.
Oui, c'est Apollinaire qui lui lit des grands classiques de la littérature française. Ce sont aussi les rencontres avec les artistes, Modigliani, mais aussi Braque, avec qui il fera une sorte de cordée, comme on dit, pour explorer le cubisme. Et puis c'est là où il rencontre notamment sa première compagne de longue durée, Fernande Olivier, qui va l'accompagner dans cette transition entre la période bleue, la période rose et puis le cubisme ensuite.
Alors juste pour faire un tout petit peu d'histoire, en caricaturant un petit peu le parcours de votre grand-père, après cette période bleue-rose que vous venez de dire, 1907-1909, c'est une période un peu moins connue, c'est plutôt l'influence de l'art africain ?
Exactement, qu'il avait découvert chez Gertrude Stein, qui était une américaine férue d'art et une grande découvreuse de talent. Et il avait également découvert toutes les statues africaines semaine au musée de l'Homme, au Trocadéro, avec un souvenir assez troublant. Ça sentait mauvais, c'était ombrageux, il y avait de la poussière partout. Et là, il a découvert des œuvres qu'il ne connaissait pas, les œuvres qu'on appelle aujourd'hui l'art primitif. Mm-hmm. Et il a essayé de percer le secret de cet art africain en se demandant pourquoi est-ce que les artistes africains avaient créé ces sortes de statues qui avaient plutôt une vertu de médiateur, de protection. Mmh. Et ça l'a amené à simplifier les formes pour essayer, peut-être comme on dit, pour dire les choses un peu crûment, à faire ce qu'on a appelé le cubisme, c'est-à-dire une simplification qui permet d'observer une personne ou un objet sous différents angles sur le même plan.
Ça veut dire que pour cette période africaine, il sculpte plus qu'il ne peint, car c'est aussi un sculpteur.
Il commence la sculpture, absolument, et au musée Picasso de Paris, on trouve notamment une tête de Fernande, qui fait écho aux portraits de Fernande qui sont faits de ses pans coupés, de ses traits, de ses lignes géométriques.
Et puis voilà, arrive ensuite le cubisme jusqu'à la Première Guerre mondiale. Figure géométrique qu'il détricote dans tous les sens, avec le compagnon Braque notamment.
Exactement, et en deux parties finalement, le cubisme sera fait d'abord dans une forme de représentation avant de se simplifier pour devenir analytique, et c'est le premier artiste qui va incorporer à la fois d'autres matériaux comme le sable dans une œuvre d'art, ou bien des marques. Vous savez, il y a des œuvres cubistes dans lesquelles on trouve des marques de l'époque, cube, pernaud, des choses comme ça, et donc c'est à nouveau un pionnier dans toute forme de création.
Ce sont des collages là.
Ce sont des collages, exactement, ouais, ce sont les collages.
Et là, c'est la période des grandes toiles, Guernica, les Demoiselles d'Avignon.
Alors après,
c'est la période
Demoiselles d'Avignon vont être en 1907, Guernica sera un aboutissement et un engagement politique, inspiré esthétiquement par ma grand-mère Marie-Thérèse, mais en même temps inspiré politiquement par Dora Maar, qui lui fait comprendre qu'il faut se réveiller.
Oui. Picasso, toujours, qui prend l'avancée, la modernité en marche. 1925, il est happé par le surréalisme, pour le coup. Qu'est-ce que ça donne comme toile et comme représentation?
Ça donne la danse, ça donne les trois musiciens. Mmh. Ce sont des œuvres qu'on voit notamment au musée Picasso à Paris. Et puis, il va se libérer, parce qu'il n'aime pas appartenir à une école. Il s'était libéré de l'académisme de sa jeunesse, donc il ne veut pas retomber dans un mouvement. Et il essaiera d'aller un pas en avant. Le pas en avant, ce sont notamment tous les portraits qu'on a découverts dans l'exposition Picasso 1932, il y a quelques mois. Les portraits inspirés par Marie-Thérèse, et avec elle, il va faire une exploration amoureuse, en retrouvant le thème du peintre et son modèle, et une exploration artistique qui est la plus connue, finalement. Les gens connaissent souvent ces portraits sur lesquels on voit le nez et les yeux du même côté, avec beaucoup de couleurs. Et puis, il prouvera ensuite qu'il peut être un peintre classique, puisque il faut savoir que chaque
influencé
peinture...
Influencé par les grands maîtres, il y avait
bien
une exposition magnifique
par les grands maîtres, par exemple,
au Grand Palais.
Mais il existe énormément de carnets de dessins dans lesquels Pablo prépare. Par exemple, pour les Demoiselles d'Avignon, on est en 1907, donc on remonte en arrière, il y a plus de 700 croquis
préparatoires.
Donc chaque œuvre n'est pas le résultat de l'instant, elle est le résultat d'un esprit qui a mûri et d'un travail.
Et en toute objectivité, ils sont rares quand même les peintres Olivier Picasso qui ont eu de telles périodes de multiples dans leur vie, et toujours cette volonté de se transformer.
Ils sont très rares. Souvent, on assimile un peintre à un style.
Et c'est ça. Oui.
Un style qui dure toute une vie. Je ne sais pas, Bernard Buffet ou Balthus, et bien d'autres. Et donc, c'est compliqué. Je pense que les artistes s'interrogent en permanence, et certains ont plus de talent que les autres, et parfois ça touche au génie.
Oui, il s'est interrogé beaucoup, il a créé énormément. Picasso, 50 000 œuvres, 8 000 tableaux, et on en parle de cette exposition phare de la rentrée au musée d'Orsay sur les débuts du peintre, les fameuses périodes bleues et roses. Pierre-Julie, et eh bien, nous avons déjà Chantal qui arrive au standard de la parole dans un instant.
Le tour de la question sur Picasso, c'est notre sujet d'émission le plus ambitieux certainement.
Oui, combien.
On n'a qu'une heure.
Bleu et rose, on a choisi une période quand même, au cœur de l'expo du musée d'Orsay.
Mais on parle aussi de Picasso, ses débuts,
bien sûr.
Et sa carrière si je puis dire.
Et sa liberté. Était libre. libre, votre grand-père Olivier Wiedemeyer-Picasso, éculotté parce que pour arriver sans argent en poche à Montmartre et au bateau Lavoir, il fallait être certain que oui. les choses se passeraient là-bas, à Paris.
Ah oui, il y avait vraiment une ambition d'y arriver. Mmh. Il était certain dès l'enfance que ce talent n'était pas innocent. Donc il avait une vision du sacré, je pense, comme une sorte de mission à exercer qui était obligatoire. Il fallait qu'il poursuive.
Oui. On a énuméré ces différentes périodes et vous disiez son particularisme et sa singularité dans ce parcours des peintres qu'on peut dire contemporains pour nous. Est-ce qu'il a été riche, Picasso ?
Mais écoutez, les années ont été difficiles. Il y a eu quand même à Paris une dizaine d'années au bateau Lavoir qui ont été dans la douleur. Mmh. Mais à partir des années 1911-1912, il travaille et il gagne convenablement sa vie. Et après la Première Guerre mondiale, il va rentrer dans une période extrêmement où il sera très, très fortuné. D'ailleurs, Jean Cocteau disait c'était sa période duchesse. Après son mariage avec Olga en 1917, oui. il va s'installer dans un bel appartement parisien, très bourgeois. Il va avoir une vie mondaine très active. Et c'est en 1927, après avoir rencontré ma grand-mère devant les Galeries Lafayette, oui. qu'il va retrouver la simplicité.
Rencontrer Picasso devant les Galeries Lafayette.
Ben, c'est la bonne rencontre. Pourquoi ça ne nous est pas arrivé
Et elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas qui il était, ce Picasso. Elle était simplement charmée par ce monsieur avec cette jolie cravate.
Ah.
Et puis il lui a dit
période duchesse.
Mademoiselle, j'aimerais faire votre portrait et je pense que nous allons faire de grandes choses ensemble.
Ouais. Et c'est voilà. elle qui l'a ensuite habillée en marinière avec cette.
disons que il a simplifié sa vie. Il est revenu à l'essentiel, oui. le peintre dans son atelier. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il partira, il quittera la table après un déjeuner en disant « je vais travailler ». Et il s'isolait et il est resté fidèle à son art jusqu'à la fin.
Ça, c'est formidable. Donc le moment où il paye ses repas en échange de dessins, de croquis, de peintures, c'est les tout débuts à Paris. Hein. Ou alors il a continué à conserver un peu ce
petit rituel. Après, on lui a surtout demandé de payer son repas ouais. avec un dessin.
Les gens ont misé sur son art.
Mais il attachait beaucoup d'importance à la valeur de l'art. Et donc, vous savez, il y a des boutades qui disent qu'il disait « mais voulez-vous signer, maître ?» Et il répondait « j'achète le repas, pas le restaurant
». Ça, c'est bon, ça. Le musée d'Orsay offre, à partir d'aujourd'hui, une exposition magnifique et inédite sur la période bleue et rose du peintre, votre grand-père, 6 ans cruciaux dans sa peinture. Mais vous disiez, il y a eu à peu près 8000 tableaux. Combien sont restés dans la famille, vous nous le rappelez, Olivier
Mais disons,
Picasso ?
Combien en a-t-il gardé ? Car
oui,
il était
ça,
très attentif à garder des exemples de ces différentes périodes, même s'il ne les appelait pas comme ça. Mm-hmm. Et donc, plus de 2200 tableaux ont été inventoriés à sa mort. Et une grande partie, enfin... plus de 20% se trouve aujourd'hui au musée Picasso, qui comporte une collection de 5000 œuvres.
Oui, parce que quand il y a un héritage comme ça, il y a des droits de succession. Ça
Absolument, il y a un inventaire qui a duré très longtemps, il a fallu 4 ans. 4 ans pour tout inventorier à l'époque.
Et donc l'État a récupéré 20% de ces tableaux.
Et l'État à l'époque a récupéré 20%, avec une spécificité, c'est que c'est l'État qui a choisi. En général, c'est une famille qui propose à l'État un choix, mais la famille a eu l'intelligence de penser que c'était plutôt à l'État d'imaginer son futur musée, et donc c'est l'État qui a choisi en premier, et c'est pour ça qu'on a heureusement, notamment à Paris, des œuvres exceptionnelles et un musée dirigé par Laurent Lebon aujourd'hui.
Au musée Picasso dans le Marais.
Qui est extrêmement dynamique pour montrer ses œuvres. C'est important de montrer les œuvres. Aujourd'hui, les conditions de transport, les assurances, tout ça, c'est cadré au niveau international. Et donc, les œuvres peuvent voyager sans aucun problème. Et c'est très important de les montrer. Et moi-même, je pense qu'il vaut mieux que les œuvres soient dans les musées ou dans des expositions, plutôt dans des coffres à l'abri du regard.
C'est donc un musée national Picasso à Paris, oui. hein, Julie.
Mais de son vivant, il les mettait où, ces tableaux ? Parce qu'on connaît tous la maison de Dali près de Cadaquet. Mmh. Mais Picasso, il vivait où ? Il avait une maison où il mettait tous ses tableaux ?
Eh bien écoutez, on peut croire que l'achat de toutes ses propriétés, il en avait une dizaine à sa mort, aurait été un sport de plaisir, mais pas du tout. C'était des garde-meubles pour lui. Toutes ses œuvres étaient rangées les unes après les autres, à Cannes, à Mougins, à Valoris, à Paris. Donc il est très attentif à la protection et à la conservation de ses œuvres. Et lui seul savait exactement l'ordre, parce que quand on parle de 2000 tableaux, il faut quand même avoir une sorte de mini-inventaire dans sa tête.
Ouais,
et il pouvait répondre à quelqu'un, va le chercher, il est là, c'est le cinquième.
C'est fou, hein. voilà. Très attentif ouais. à la conservation des œuvres, oui. disiez-vous. Mais est-ce qu'il avait des qualités d'homme d'affaires, pour le coup ?
Eh bien écoutez, il a accompagné la naissance du marché de l'art. Au XXe siècle, il faut savoir que certaines œuvres de la période bleue ou de la période rose ont été achetées l'équivalent de 20 francs or à l'époque. Ce qui ne veut rien dire. Mais ouais. il a toujours été très attentif et il a même joué la carte de la compétition entre les marchands. Et on raconte des anecdotes où lorsqu'il était dans son atelier des Grands Augustins, de la rue des Grands Augustins à Paris, il avait un rendez-vous avec un marchand en faisant attendre un autre dans l'entrée et en faisant en sorte qu'ils se croisent pour stimuler la compétition.
Ah ouais, ouais. Incroyable et redoutable.
Redoutable.
Pablo Picasso raconté par son petit-fils Olivier Picasso à l'occasion de cette grande expo au musée d'Orsay qui intéresse déjà l'une de nos auditrices, chère Julie.
Sylvie ?
Oui,
Sylvie qui nous écrit « Je ne suis jamais allée au musée d'Orsay ». Une belle occasion de le faire avec l'exposition Picasso bleu-rose.
Ouais,
Que de choses à faire fin novembre,
ouais,
dit-elle.
Elle nous écrit de Toulouse sur le hashtag Europe 1 et dans un instant, je laisserai la parole à Samuel qui a une question pour vous, Olivier Picasso, au standard d'Europe 1 39-21.
Picasso, de l'art et du superlatif, réflexion sur la valeur de l'art. Ouais. On va en parler maintenant. Hein,
on en parle.
Avec Wendy et son invité, qui est le petit-fils de Pablo Picasso. Et puis j'ai un petit message là à vous lire, un tweet. On nous remercie pour cette belle émission sur Picasso. Un régal à cette heure-ci. Une reproduction de Guernica était affichée dans le couloir de mon lycée, le lycée Aubanel à Avignon. Mon admiration pour ce génie a débuté ainsi, nous écrit Valérie.
Ah, ça c'est joli, Olivier Picasso.
C'est joli. Et puis je sais que grâce à l'ampleur de l'œuvre de mon grand-père, chacun a son Picasso. Mmh. Voilà. Alors Guernica, évidemment, c'est un symbole de paix. Mais je suis certain qu'avec l'exposition Bleu et Rose, par exemple, ou celle de chef-d'œuvre, de nouveaux visiteurs vont se dire « Ah, c'est celle-là ma préférée. » Et j'aime bien écouter les gens quand ils font des commentaires.
Ouais, mais vous avez raison, parce qu'il y a une telle variété dans son œuvre. Voilà, on a tous, moi, j'ai une modeste petite carte postale avec une colombe de Picasso, mais j'ai un Picasso à la maison, du coup, vous voyez. Le musée d'Orsay présente la période bleue et rose aujourd'hui. Avant de donner la parole à Samuel, Olivier Picasso, c'est toujours le peintre numéro un des ventes aux enchères, Pablo Picasso.
Bah écoutez, si on se réfère en effet aux chiffres du marché de l'art, et notamment les chiffres publics, celui des ventes aux enchères, Pablo Picasso, en 2017, est redevenu numéro un. Après l'avoir été de nombreuses années et avoir été numéro 2 l'année précédente, car c'était Andy Warhol qui avait totalisé le plus de ventes.
La bataille des titans. Je vous donne un chiffre, Julie. Le garçon à la pipe, chef-d'œuvre de la période rose, justement, en 2004, vendu 93 millions de dollars. Ça dépasse l'entendement, même pour vous qui êtes dans la famille.
Ah, bah, écoutez, c'est la force de l'art. Je pense que quand des gens sont au-delà des préoccupation d'investissement, quand des gens sont prêts à payer un tel prix, c'est qu'il y a le prix d'une émotion. Je crois qu'une œuvre d'art, avant tout, c'est une émotion. Et quand on a tout, une maison, un bateau, l'œuvre d'art reste une sorte de sublimation. Et puis ça nous ramène à l'essentiel, c'est une forme d'humanité.
Samuel, vous êtes avec nous, vous nous appelez de Paris. Bonjour au 3921.
Bonjour.
Vous avez entendu
Bonjour, merci de me recevoir.
Ces chiffres et ces sensations qui donnent le tournis un peu, mais voilà, c'est parce que Picasso est l'un des peintres préférés des Français. On vous écoute, Samuel.
Oui, bien sûr. Et je voudrais poser la question à Olivier de m'orienter sur les émotions qui ont guidé la carrière de Picasso et qui ont du coup été difficiles pour lui de vivre dans la bohème et de sacrifier la richesse d'un début de carrière prodigieux comme Picasso était. Avait déjà l'habilité d'un Raphaël des 20 ans. Mmh. Et du coup, ces émotions peuvent être une étincelle qui permet à un artiste de passer un palier différent, qui permet d'aboutir à son travail, comme la mort de Casagemas a été un palier à un grand impact pour aller à la période bleue. Mmh. Et du coup, la rencontre de Fernande, de même pour la période rose. Et ce que je voudrais poser comme question du coup à Olivier, c'est si cette relation entre Fernande et Picasso, qui est si mystérieuse, ça n'a pas été un énorme palier aussi pour passer du cubisme, qui, lorsque Picasso, qui a un amour tumultueux, va enflammer cette relation jusqu'à une relation de haine, parce qu'il y a eu des événements qui sont assez tés, la fausse couche de Fernande et de l'adoption échouée de la petite Raymond. Est-ce que Picasso ne l'a pas haï au point de modifier, détruire le visage et
Déstructurer le visage. Ouais.
Samuel, vous êtes étudiant en beaux-arts?
Je suis scénariste et je suis employé pour écrire un film sur
Picasso.
Oui, voilà.
Ah, c'est vrai. Ah, bah bravo. Mais vous êtes bien en cinéma. Alors c'est très joli. Alors pardon, je voulais juste savoir parce que vous êtes très très cultivé sur le sujet. Olivier, répondez si vous voulez à Samuel.
Il est certain que les œuvres de mon grand-père reflètent des émotions. Comme je l'ai dit, il est né à la fin du 19e siècle dans un monde de peinture académique et donc où on l'obligeait en quelque sorte à faire une peinture de représentation. Et Pablo a voulu y inscrire les émotions humaines. Les émotions humaines, elles sont variées. lié. Hein, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la haine, c'est le tracas. Et je crois cependant qu'avec Fernande, l'exploration artistique a été celle d'un modèle, d'abord, et puis celle des émotions vécues au jour le jour, comme vous le rappeliez. D'ailleurs, je vois que vous êtes très calé. Très, très
ouais,
calé.
Ouais.
Et le cubisme repose sur une exploration artistique, évidemment inspirée par une femme, en l'occurrence Fernande, mais il s'agissait pour lui de se demander, avec Braque d'ailleurs au départ, comment arriver à reproduire plusieurs angles d'observation d'une personne ou d'un objet sur un même plan. Alors évidemment le résultat peut être confondant et on a l'impression que le visage est déstructuré, mais quand vous regardez bien l'œuvre, vous vous approchez de la réalité, vous retrouvez les traits de la personne. Il y a un portrait très célèbre d'Ambroise Vollard de facture cubiste, et si au départ on a l'impression d'une multitude de facettes, en pénétrant le tableau, on retrouve exactement le visage d'Ambroise Vollard. Et ce sera la même chose avec la collectionneuse Gertrude Stein. On dit qu'il l'a fait poser 70 fois et qu'elle regardait son portrait, elle voulait quelque chose d'assez représentatif. Et puis à la fin, il a tout gommé. Et puis en une seule fois, il a fait un portrait cubiste ou pré-primitiviste de Gertrude Stein en lui disant elle ne lui ressemble pas, mais elle finira par lui ressembler.
Ah, c'est beau ça. Et pour prolonger la réflexion de Samuel, c'est vrai qu'il y a aussi dans ces périodes bleues, dans ces périodes roses et dans toutes les périodes, d'ailleurs un exutoire, c'est-à-dire que quand on teinte comme ça au filtre une peinture, c'est qu'on diffuse ses émotions.
On diffuse ses émotions et Pablo dira plus tard qu'il ne fait pas de la peinture pour décorer les appartements, que l'art est une arme, une arme mais qui n'est pas nécessairement une âme guerrière, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer dans la compréhension de l'humanité et de reproduire finalement ce que les êtres sont à travers leurs émotions.
Merci Olivier Picasso et merci à Samuel pour son intervention en 39-21. N'hésitez pas, Pablo est mort, mais Picasso est éternel. Ça, c'est vous qui l'avez dit, Olivier Picasso. Et on va encore vous le prouver. Encore quelques petites minutes après la pause, Julie.
Europe 1.
Et on parle de Picasso. Picasso à l'occasion de deux expositions. Enfin, l'exposition qui démarre aujourd'hui à Orsay. Mm-hmm. Et puis, il y a toujours l'autre exposition.
Chef-d'œuvre.
Au musée Picasso de Paris. Voilà.
Au musée national, absolument. Mm-hmm. Mais Picasso est partout, indémodable. Vous citiez deux expositions, mais il est aussi au musée Matisse de Nice en ce moment, à Montpellier jusqu'au 23 septembre. Et donc, ce bleu et rose, exposition phare de la rentrée au musée d'Orsay. Picasso éternel, c'est un nom, c'est un héritage. C'est l'un des artistes les plus prisés au monde, on en parlait. Un des peintres aussi préférés des Français. Avant de converser encore avec vous, Olivier, j'ai une question de Stéphane qu'on n'arrive pas à joindre, mais qui nous appelle de Paris, pourtant c'est pas très loin. Quels étaient ses rapports avec Dali, nous demande Stéphane. Intéressant.
Ah, c'était une relation délicate, parce que je pense que Dali a très tôt repéré que Picasso était un artiste hors du commun. Il est rentré en contact avec lui, ils ont échangé, mais Pablo était très méfiant. Alors, je pense que Pablo a voulu être son ami, que Dali a voulu être l'ami de Pablo, mais que Pablo n'était pas très content de l'engagement politique de Dali auprès du général Franco, notamment. Ah. Et donc, ça a mis un terme à leur relation. Cependant, je pense qu'on garde de Dali l'image du peintre exubérant de la fin de sa vie. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup attaché à la célébrité. Et celle de Pablo Picasso était un repère exceptionnel. Mais ça occulte un tout petit peu le grand talent de Dali.
Ah bah oui, immense talent.
Dali est un peintre exceptionnel qui a introduit l'inconscient dans la peinture, et lorsque l'on voit des œuvres, il faut s'approcher pour voir la minutie du détail, dont c'est un très grand peintre également.
Exubérance et talent évidemment chez Dali par rapport à la discrétion de votre grand-père, mais qui connaissait quand même très bien le star system, il en jouait aussi de ses côtés, cette marinière. C'était quand même incroyable.
La marinière, ça vous frappe.
Bah oui, parce que
mais Jean-Paul Gaultier sort de ce corps.
Mais il a su qu'il y avait une empreinte aussi.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, Pablo Picasso est connu du monde de l'art. Il est célébré aux États-Unis, les grands collectionneurs se l'arrachent. Après la Deuxième Guerre mondiale...
Sacré plus grand artiste du XXe siècle en 1939 aux États-Unis.
Déjà, vous imaginez. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on voit l'apparition des magazines People et des photographes. Et donc, Pablo Picasso est un excellent sujet. Il se montre sur la Côte d'Azur avec tous ses enfants. Il est absolument libre. Et il a un sens inné de la pose. Moi, quand je regarde toutes les photos, même celles prises en 1905, même des autoportraits, on va appeler ça des selfies aujourd'hui, mais il se prend en photo dans un miroir, il explore la photographie pour voir si elle n'est pas une concurrente de la peinture. Mais après, les années 50, on le voit en effet avec la marinière, avec un revolver, une coiffe de chef indien. Et il sait se mettre en scène toujours visuellement et sans un mot. Donc c'est extraordinaire.
Julie.
Alors tout à l'heure, on a entendu qu'Europe 1 lançait le jeu de la fausse publicité, ce qui est rigolo. Oui. Alors en parlant de fausse publicité, ça m'a fait penser aux faussaires. Est-ce que vous avez connaissance de tableaux qui ont été des faux, quoi, avec les faussaires ?
Écoutez, c'est en effet un problème important. Hein. Il y a eu beaucoup de contrefaçons, beaucoup de copies, beaucoup de à la manière de Picasso. Mmh. Et notre famille fait attention à ces authentifications qui sont demandées régulièrement. Ma mère, par exemple, qui est une très grande experte, a dû voir des milliers d'œuvres. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de noms pour un simple oui. Il peut y avoir une œuvre oubliée dont tous les éléments confortent que cette œuvre est authentique.
Et oui, évidemment. Et votre mission, l'une des missions de la famille, c'est de protéger cet héritage. Comment on gère les œuvres de Picasso qui apparaissent dans les catalogues, dans les livres, dans des films, dans les journaux? Ça, c'est vous qui gérez.
C'est une mission de protection et de promotion. Mmh. Il faut aider tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre et qui font des expositions. Et puis, il faut faire en sorte que, lorsqu'il y a des reproductions, elles soient fidèles à l'original. Donc, on essaye que les œuvres ne soient pas coupées, que tout soit montré dans l'intégralité à celui qui regarde et que les couleurs soient fidèles. C'est très compliqué. Hein,
y compris la signature, la marque Citroën Picasso, ça c'est grâce à vous aussi?
Écoutez, dans la fin des années 90, on a découvert qu'il y avait plus de 700 marques illégalement déposées dans le monde. Ah. Ça voulait dire 700 problèmes potentiels. On a découvert des choses incroyables, des casseroles Picasso, des ventilateurs Picasso.
Et j'ai suggéré
de déposer la marque dans la catégorie automobile et puis d'oser ce rapprochement avec un constructeur automobile. Et ça a été un grand succès.
C'était une provocation de votre part?
C'était osé, parce que donner le nom d'un peintre à une voiture, ça ne s'était jamais fait.
Avec la vraie signature. Hein,
avec la vraie signature. Dans ma tête, c'était l'idée d'être encore pionnier, que Picasso soit même après sa mort. Je crois que ça l'aurait amusé.
Vous êtes sûr?
Ça correspond quand même à la personnalité du grand-père.
Ça l'aurait amusé parce que la provocation fait quand même partie de sa démarche. Il sait que sa peinture peut déranger, après elle rassure.
En tout cas, l'État a accompagné aussi ce talent pour les 85 ans de Picasso de son vivant. Donc André Malraux organise une grande exposition. Et puis il ira au Louvre aussi de son vivant en 1971. Ça ne s'est jamais vu. Je pense
qu'à l'époque, le président Pompidou et André Malraux avaient bien conscience que la France avait raté Picasso. Qu'elle n'avait plus les moyens d'acheter des œuvres.
Qui était assez controversé à l'époque. On ne le comprenait pas très bien.
C'était la fin de sa vie, on pensait qu'il était dépassé, oublié, alors qu'aujourd'hui les œuvres des années 60 et 70 sont extrêmement recherchées. Et son entrée au Louvre en 1971, avec une visite de 8 tableaux de Pablo exposés, c'était tout de même la mise en perspective de Pablo dans l'histoire de l'art.
Et bien voilà, et mise en perspective du premier âge d'or de Picasso. Revenons aux origines, ses 19 ans, son arrivée à Paris jusqu'à ses 25 ans. C'est au musée d'Orsay, une exposition phare qui commence aujourd'hui, c'est le jour J, mais vous avez de nombreux mois. C'est jusqu'à quand, Olivier Picasso?
Au musée d'Orsay.
Bon, voilà. En tout cas, c'est une très belle exposition, bleu et rose pour un Picasso libre et immortel, dont bien vous nous avez raconté une fois de plus avec toute votre passion de famille, l'histoire, Olivier Wittmeyer Picasso. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et je recommande ce livre, Julie. Regardez l'un de ces livres, parce qu'ils sont nombreux, mais concoqués par Olivier.
De Picasso, qui est paru chez
Albin Michel. Merci, on se retrouve demain, si vous voulez bien. Merci à Charlotte Tarragoni, Olivia Missen-Macher, à Sarah Cruz, à Jean-François Bussière et à vous, madame. À demain.
À demain, dans un instant. Anne Roumanoff.